Et maintenant, le dessert à Walou.
Celui-là, comme ça? Tu peux? Est-ce que tu l'autorises?
Oui, fais juste attention de ne pas le tirer.
Ah, OK. Merci beaucoup. Je voulais remercier le Sirdis qui m'a invité encore une fois, n'est-ce pas? Cette gentillesse-là de m'inviter tout le temps, ça m'honore beaucoup et je suis toujours très heureux et très honoré d'être ici à l'UQAM, dans cette espèce de labyrinthe avec des étudiants et on se perd ça et là. Je voulais aussi remercier, c'est le CEDIM, n'est-ce pas, qui co-organise ce débat sur l'insurrection au Burkina Faso. Mon propos va être radicalement différent de mes prédécesseurs, pas parce que j'aime toujours prendre les voies les plus un peu difficiles à emprunter, mais parce que je suis juriste de formation à la base et je vais avoir une lecture alors normative du débat. Pour moi, de mon point de vue, la question de l'insurrection populaire au Burkina et plus généralement des crises en Afrique sont liées d'une part au droit. Et d'autre part, et ce qui est plus intéressant, la solution passe nécessairement par le droit. Et de ce point de vue-là, je crois que l'Afrique est traversée par d'abord ce que j'appelle la crise du constitutionnalisme. Et petit à petit, on a un débat intellectuel actuellement qui, et je crois, à justice d'ailleurs, que nous traversons aujourd'hui un droit constitutionnel de crise. Alors, je vais expliquer les deux expressions et pourquoi est-ce que l'insurrection populaire au Burkina, en réalité, traduit une renaissance de ce droit constitutionnel de crise, un ensemble d'accords politiques, de conventions, d'arrangements entre les acteurs politiques pour sortir d'une crise. Très rapidement, pour comprendre la crise au Burkina, il faut non seulement avoir à l'esprit l'histoire que mon collègue Siaka a présentée, aussi les intrigues politiques, militaro-économiques, etc. que mes deux auteurs ont présentées, mais il faut aussi regarder la part du droit dans ce débat-là. Et je crois fondamentalement que les crises en Afrique sont liées à l'utilisation un peu biaisée ou à l'instrumentalisation progressive du droit, qui était censé régir l'État, qui était pas seulement censé, mais qui avait pour but fondamental de régler la question institutionnelle et de mettre en place une espèce d'espace politique démocratique. Bref, la crise du constitutionnalisme est liée d'abord, d'une part, au fait que, dès le début, dans les années 90, lors du processus de démocratisation, on a voulu tout d'un coup avoir des régimes démocratiques, ce qui, à mon avis, était un peu osé. Parce que finalement, ce qu'on a eu, c'est que finalement, les acteurs politiques ou les dirigeants de l'époque ont cru qu'ils pouvaient utiliser le droit pour faire plaisir à la communauté internationale, finalement. Et donc, de ce point de vue-là, on a un ensemble de droits constitutionnels, l'ensemble des règles fondamentales qui étaient mis en place, non pas pour donner plus de sécurité, plus de liberté, plus des libertés aux populations et plus de droits, mais plutôt un ensemble de règles normatives qui étaient mises en place pour promouvoir quelqu'un, un individu. Donc, de ce point de vue-là, les constitutions africaines en général, toute l'étendue de l'Afrique, mais en particulier au Burkina Faso, c'était des constitutions que moi j'appelle taillées sur mesure. Ici au Canada, nous savons que nous avons une constitution, elle est générale et impersonnelle. Les premiers ministres passent, les dirigeants passent, mais la constitution, elle est là. On peut la modifier ça et là en fonction des exigences de société. Mais elle est là parce qu'elle est impersonnelle et générale. Mais en Afrique, c'était exactement l'opposé. On a écrit les textes constitutionnels pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, pour adapter le droit aux besoins d'un individu, qu'on appelle souvent le père de la nation. Et donc, de ce point de vue-là, Compaoré a voulu jouer à ce jeu. En écrivant une constitution de 1991 qui était censée promouvoir sa propre personne. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une espèce de déséquilibre institutionnel entre l'exécutif qu'il est et les autres institutions de la société. On constate alors un président qui est hyper président, puisque finalement, c'est lui qui dicte, qui décide les grandes orientations de la nation, c'est lui qui nomme le premier ministre, c'est lui qui a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée, c'est lui qui a le pouvoir de nommer dans la haute administration de l'État, c'est lui qui nomme les militaires, etc., etc. Donc finalement, on a un régime à travers lequel le président de la République, finalement, devient un monarque. Et du point de vue du droit, ce n'est plus ou moins qu'un monarque. Il a tous les pouvoirs pour décider de toutes les grandes orientations du pays. Donc, de ce point de vue, l'opposition est écrasée. Toute velléité de changement est impossible parce que le droit est fermé. Donc, je crois fondamentalement que, de ce point de vue-là, il faut garder à l'esprit que ce qui s'est passé le 31 octobre n'est pas seulement un changement radical dans la perception du droit, mais c'est aussi la renaissance de ce que moi j'appelle du constitutionnalisme africain. Parce que, finalement, on constate que le droit constitutionnel a produit les crises en Afrique, les crispations politiques et les tensions. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, au Burundi, bref, tous les pays africains connaissent ce problème-là, la constitution. Et donc, la crise qui a eu lieu les 30 et le 31 montre à quel point le jeu démocratique, qui passe nécessairement par une constitution, une loi fondamentale pour régir les institutions de l'État, a été biaisé et que finalement, ce qu'on appelle la charte de la transition, l'ensemble des arrangements politiques, que moi j'appelle le droit constitutionnel de crise, vise alors à assainir le débat pour ouvrir la voie à une nouvelle constitution. Donc, bref, voici le droit constitutionnel de crise et plus généralement les pouvoirs de Blaise Compaoré. En réalité, pourquoi est-ce que les constitutions posent problème en Afrique? C'est une question, me semble, assez intéressante à poser. Pourquoi est-ce que tout se passe par les réformes constitutionnelles? Parce que tout simplement, puisque la constitution est mise en place pour quelqu'un, alors les autres institutions de l'État n'arrivent plus à s'affranchir du jeu démocratique. Premièrement, vous avez par exemple le Conseil constitutionnel qui devrait jouer le rôle de garant de la légalité constitutionnelle. Par exemple, la Cour suprême du Canada dit le droit, même si ça ne plaît pas à notre chef, à Stephen Harper, mais s'il n'est pas content, la Cour dit le droit. Et tout le monde est censé respecter les décisions de la Cour suprême. En Afrique en général, au Burkina en particulier, et en Côte d'Ivoire, on constate que la justice constitutionnelle, donc le Conseil constitutionnel et les cours, ne disent pas le droit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette justice est aux ordres du chef de l'État. Donc c'est lui qui décide de ce qu'il faut dire, des arrêts qu'il faut produire, dans quel sens il faut dire le droit. Et c'est ainsi qu'en 2005, la Cour constitutionnelle du Burkina, le Conseil constitutionnel, a validé la candidature de Blaise Compaoré pour dire en réalité que la Constitution est une loi nouvelle qui a été adoptée en 2000, alors elle n'est pas rétroactive. Nos professeurs de droit constitutionnel ont affirmé que effectivement Blaise Compaoré pourrait encore se représenter. Quelqu'un qui est là depuis 1991, il peut encore se représenter parce que la loi n'est pas rétroactive. Finalement, on se rend compte que cette justice est aux ordres. Maintenant, pour moi, il y a un point sur lequel il faut insister. Et peut-être que je vais essayer d'être très bref pour laisser la place aux discussions. Je pense que les questions de la salle pourront nourrir les réflexions qui me paraissent beaucoup plus importantes. Deux mots sur ce que moi j'appelle le droit constitutionnel de crise. En réalité, ce sont des arrangements politiques, des accords politique pour sortir de la crise qui est née de la crise elle-même, n'est-ce pas? Parce que la Constitution crispe les tensions, crée les tensions, le désaccord, le jeu démocratique n'existe plus, il y a une cassure entre le gouvernement et les partis d'opposition et la société civile, et finalement il faut sortir de cet imbroglio politique. Donc on va mettre de côté la Constitution à problème pour conclure des arrangements politiques. Des accords politiques, ce qu'on appelle souvent, c'est souvent la convention des constitutions pour les experts du droit constitutionnel. Bref, pour moi, je pense qu'en réalité, la question qui se pose, c'est quelle est la valeur normative de ces arrangements politiques pour sortir de la crise. C'est la même question, quelle est la valeur normative de la fameuse charte de la transition qui a été adoptée à l'unanimité pour mettre en place le régime de la transition? Quelle est sa valeur constitutionnelle par rapport à la constitution elle-même qui a été rétablie par Zida? Je pense fondamentalement qu'il y a deux choses à clarifier. Puisque cette normativité occasionnelle, passagère, des crises, vise à assurer ce que moi j'appelle une normalisation des rapports politiques. Parce que finalement, le but de cette normativité des crises, ça vise à établir les institutions démocratiques et donc à normaliser le jeu politique. Et de ce point de vue-là, je crois fondamentalement que le débat intellectuel entre les spécialistes, s'il faut appliquer la Constitution ou s'il faut appliquer les accords politiques, quel est l'ordre normatif qui prime sur l'autre, devient passablement pas intéressant parce qu'en réalité, ce sont les acteurs qui décident du jeu politique à venir. Donc, de ce point de vue-là, je crois que le droit constitutionnel des crises est supérieur à la Constitution elle-même, très clairement. Parce qu'autrement dit, imaginez par exemple que la transition ou l'achat de la transition qui a été mis en place au Burkina a mis en place des organes de la transition. Si on tire pas la conclusion normative, logique, que cette charte est au-dessus de la Constitution elle-même, on se trouve face à un problème. Quelle est la normativité qui va prévaloir en cas de crise ? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, actuellement, le président de la transition décide de se représenter aux élections, contrairement à ce qui a été décidé par la charte ? Alors, de ce point de vue, je crois fondamentalement que si on fait un regard, pas seulement normatif, mais même politique, on se rend compte qu'en réalité, le débat par rapport à l'ordonnancement juridique de tous ces accords vise à faire quoi ? À déboucher vers une nouvelle constitution, vers un nouveau jeu démocratique qui peut-être probablement va entraîner alors les partis politiques et les autres acteurs à s'entendre sur les éléments fondamentaux pour assainir l'espace politique burkinabé. Donc, ceci est un débat d'experts, n'est-ce pas ? Et peut-être assez redondant, pas intéressant. Mais gardez à l'esprit que d'un point de vue synchronique, si on fait une espèce d'arrêt sur image sur la crise au Burkina le 31 octobre et la suite, je tire deux éléments pour moi, fondamentalement, deux leçons. La première leçon, c'est que il y a toujours un débat, un rapport assez difficile entre le droit et la politique, fondamentalement. Parce qu'une chose est de faire partie Blaise Compaoré. Une autre chose est de donner au Burkina et au Burkinabé un espace politique démocratique, un vrai pays avec une vraie démocratie, n'est-ce pas ? Et ça, je pense que ce n'est pas aussi simple, pour deux raisons. Premièrement, parce que les acteurs politiques qui sont là, je ne pense pas qu'ils soient ce que moi j'appelle la nouvelle génération, cette jeunesse africaine décomplexée qui connaît les affaires du monde, qui s'intéresse aux questions de l'humanité et qui pense que le Burkina mérite ou les Burkinabés méritent aussi d'écouter à ce qui se fait de bien ailleurs. Je ne pense pas que ce soit une nouvelle génération d'acteurs politiques qui vont pouvoir changer radicalement les choses. Même si, au départ, on sent que le changement a été l'œuvre, et mes collègues l'ont très bien mentionné, a été le fait de la jeunesse. Deuxièmement, un rapport difficile entre le droit et la politique. Pourquoi ? Parce que finalement, on aura l'impression que, in fine, c'est la politique qui domine, qui prévaut. Et si la politique va in fine prendre le pas sur la normativité, alors il y a un sérieux problème. Parce que l'objectif du droit, ce n'est pas seulement de régir les relations de société, les interactions entre les individus et même les interactions systémiques au sein de la société. L'objectif du droit aussi, c'est de pouvoir orienter la politique et dire qu'il y a des limites infranchissables. Vous ne pouvez pas faire cela, même si vous êtes le chef de l'État. Je ne pense pas que le débat actuel tourne autour de quel type de constitution il faut mettre en place. Et ça m'amène au deuxième point, qui consiste à dire que le droit constitutionnel des crises, s'il n'est pas bien compris, et que les acteurs n'ont pas saisi la nécessité d'un changement radical dans la conceptualisation des affaires africaines, eh bien, on risque de revenir à ce qui s'est passé dans les années 90. c'est-à-dire une population qui a une aspiration extraordinaire pour un changement et que, in fine, les acteurs politiques lui délivrent quelque chose d'autre. Donc, la grande crainte qu'on peut avoir, c'est le fait que les acteurs qui vont se mettre en place pour réécrire la nouvelle constitution n'aient pas les éléments suffisants pour pouvoir mettre en place un jeu démocratique et encadrer les relations entre les institutions. Ensuite, je pense fondamentalement que ce qui se passe au Burkina et le 31 octobre, la journée du 31 octobre est très intéressante et je pense qu'il faut, clarifier deux, trois choses. Premièrement, comment est-ce que le Blaise Compaoré a quitté le pouvoir du point de vue du droit? Il y a eu une série d'inconstitutionnalités, des décisions qui ont été prises et qui vont à l'encontre même de la Constitution. Et la plupart du temps, je suis surpris qu'on n'en parle pas assez. Parce que ça aura une conséquence sur les décisions à prendre ultérieurement. D'abord, on a insurrection populaire, on brûle l'Assemblée nationale, et bien on retire le fameux projet de la modification de l'article 37, et finalement, Blaise Compaoré qui décide de continuer à faire la politique. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un décret pour dissoudre le gouvernement. Premier acte. Ensuite, il pensait toujours saisir la chose, n'est-ce pas, maîtriser les événements et revenir comme une espèce de fauve. Mais les événements lui échappent un tout petit peu. Deuxième décret pour mettre en place ce qu'il appelle un régime d'état d'urgence, en invoquant l'article 38, le fameux article 38, qui, à mon avis, n'était pas applicable ici. Attends, il invoque l'article 38. Et donc, il remet l'exercice du pouvoir aux autorités militaires, du point de vue du droit constitutionnel. Alors, finalement, il a été contraint à démissionner. Alors, en démissionnant, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque dans le décret de démission, dans son décret, il invoque l'article 43, le fameux article qui met en place la vacance du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez très bien ces dispositions constitutionnelles, ce n'est pas le président qui décide la vacance du pouvoir, c'est le gouvernement qui décide, le conseil constitutionnel qui décide à la demande du gouvernement. Donc il y a un problème de droit constitutionnel qui se pose parce que le président n'est plus qualifié à décréter lui-même la vacance du pouvoir. Et donc je pense que de ce point de vue-là, les acteurs politiques se retrouvent face à un problème de droit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut appliquer le mécanisme constitutionnel des vacances de pouvoir? Ce qui voudrait dire que c'est le président de l'Assemblée nationale qui va assurer l'intérim jusqu'aux prochaines élections, alors que l'Assemblée venait d'être brûlée. Et donc, le président de l'Assemblée nationale n'était plus là, puisque c'est le même régime que le peuple ne voulait plus. Donc on se trouve face à un problème de droit constitutionnel et immédiatement, c'est l'armée qui prend les rênes. Mais premier acte de l'armée, ils n'ont pas dissous, ils n'ont pas rendu la constitution caduque. Ils ont commencé à mettre en place quelques décisions politiques. Et finalement, quelques jours plus tard, ils ont compris le problème constitutionnel que ça pose et ils ont déclaré la suspension de la constitution. On a juste suspendu la constitution. Alors, si la constitution est simplement suspendue, quelle est la valeur normative de tout ce débat et tous ces accords politiques entre les acteurs? Quelle est la relation entre cette constitution qui est toujours là, même si elle est suspendue, et l'achat de la transition qui a été négociée par les mêmes acteurs politiques? Donc je pense fondamentalement que ces questions-là méritent d'être clarifiées afin de comprendre que la crise ou les crises en Afrique en général ne sont pas seulement dues au fait que la population est mécontente, ou que, quelque part, les acteurs politiques sont incompétents. C'est aussi dû au fait qu'on a voulu chaque fois instrumentaliser le droit. Donc, le recours systématique au droit pour des fins politiques. Et donc, nécessairement, ça entraîne des tensions et nécessairement, ça ouvre la voie à la guerre et aux crises politiques. Mais pour sortir de ces crises-là, qu'est-ce qu'on fait? Assez souvent, on recourt encore à ce même droit pour résoudre la crise. Et finalement, on se retrouve à une espèce d'incertitude normative et de situations non clarifiées, et que en réalité, le citoyen lambda, le Burkinabé lambda, ne comprend plus rien dans tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que c'est M. Zida qui est encore là, alors que c'est lui qui était le chef, même si c'est quelques jours, le chef de la transition, le chef de la situation, et il se retrouve être le Premier ministre. Et on applique encore le même mécanisme, puisque c'est le gouvernement, enfin le chef de l'État, donc le président de la transition, qui va dessiner les grandes orientations de l'État et qui doit être appliqué par le Premier ministre. Lui-même, il va désigner ses ministres, même si c'est le président qui va les nommer. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un problème entre le Premier ministre et le président de la transition? Comment on fait pour résoudre cette situation de cohabitation qui n'a pas été prévue de façon normative dans les textes? Il y a un problème. Ensuite, que se passe-t-il si, par exemple, les députés qui n'ont pas de quitus de la population, ils ont été désignés, comme dans cette salle, on a désigné qui va être député, qui ne va pas l'être. Qu'est-ce qu'on fait si ces mêmes députés prennent des lois de type législatif, et qui va à l'encontre des dispositions de la Constitution qui est toujours en vigueur? Donc je pense fondamentalement que le débat au Burkina Faso, l'insurrection populaire n'est que ce que j'appelle l'étape number one, l'étape 1. Les vrais débats vont se passer maintenant à travers le processus des élections et finalement à travers la rédaction de la nouvelle constitution. Parce que, in fine, ce que moi je pense être l'apport substantiel de ce mouvement insurrectionnel, c'est le fait que finalement la jeunesse décide de se tailler une constitution à sa propre mesure, et non pas une constitution à la mesure d'un individu, fût-il blesse comparé ou une oligarchie militaire. Bref, je pense que c'est déjà l'heure, n'est-ce pas? J'avais une troisième partie, mais je la réserverai aux discussions. Merci beaucoup.